Le journal Thérèse Bassoubi.
Ouverture aujourd'hui de la deuxième conférence internationale des Grands Lacs à Nairobi, au Kenya. La conférence se termine demain avec la signature d'un pacte de paix, de stabilité et de développement dans cette région d'Afrique centrale. En province orientale, plus de 100 combattants du FRPI de Cobra Matata rejoignent le processus de démobilisation. Ils sont arrivés hier au camp d'Abeba en Ituri. Pas d'assemblée plénière des députés provinciaux ce lundi 18 décembre. C'est ce qu'a déclaré Denis Kaloumé, le ministre de l'Intérieur. Les premières assemblées provinciales vont se tenir le 3 janvier prochain. Bonjour à tous. Ouverture solennelle ce jeudi matin de la deuxième conférence internationale des Grands Lacs. Les chefs d'État ont débuté par une première réunion à huis clos qui a duré près de 30 minutes. Le discours d'ouverture a été prononcé par le président tanzanien, président sortant de la conférence. On note cependant quelques absents de taille. Depuis Nairobi, notre envoyé spécial Paul Kabouba est joint au téléphone par Kalenge Yatumbi.
Parmi les absents, dans les pays du centre, il y a au Kagame du Rwanda. Dans les deux du champ, on note l'absence du président centrafricain. Le président Kabila, lui, est bel et bien présent. Et en quittant la salle du micro, il était en pleine conversation avec Alpha Omar Konaré, le président de la Commission de l'Union africaine. Et également d'autres absents, d'autres poids lourds qui ne sont pas là, notamment le président Thabo Mbeki de l'Afrique du Sud et Sassou Nguesso, président de l'Union africaine. La journée d'aujourd'hui sera réservée pratiquement un discours et une civilité. Les chefs d'État en profiteront sûrement pour jeter un coup d'œil sur les différents protocoles et surtout sur le pacte de paix, de stabilité et de développement qu'ils auront assuré ce vendredi. Figuré complexe, Nairobi, Paul Kabouba, Radio Okapi.
En RDC, en province orientale, à Ituri, un deuxième groupe d'éléments armés du FRPI de Cobra Matata ont rejoint le processus de démobilisation et d'intégration au sein de l'armée nationale. Hier, c'est une centaine de combattants qui sont arrivés à Abeba, à 45 km au sud de Bounia. À la même occasion, Cobra Matata, le leader du FRPI, s'est fait orner de ses galons de colonel de l'armée nationale par le commandant des opérations militaires des FRDC en Ituri. Témoin de l'événement, Jean-Claude Bissiliabo.
C'est avec ce chant et cri de joie que la population d'Aveba a accueilli ce mercredi Cobra Matata et ses combattants. Certaines femmes étalaient même leur pagne au sol sur les sentiers apprêtés par Cobra pour rejoindre les autorités gouvernementales et des FRDC ainsi que celles de la MONUC venues les rencontrer. Au total, 110 combattants étaient présents pour rendre 27 SMG et des armes de pointe. Ceux qui étaient même réduits avancent qu'au motif, ils combattaient avec des armes blanches. Au cours d'une parade spéciale organisée pour la circonstance, Cobra Matata a lancé un appel à tous ses combattants d'adhérer au programme tracé par les gouvernements.
Que tous les combattants du FRPI, où qu'ils se trouvent, qu'ils me rejoignent à Tchéi pour obtenir leur feuille de route pour les centres des Rwampara, en vue de rejoindre les programmes du gouvernement. C'est un ordre.
À la même parade, le commandant des opérations de FRDC à Ituri a orné Cobra Matata de ses galons de colonel. Pour le général vainqueur Mayala, le leader du FRPI a démontré son sens de patriotisme.
Un geste vraiment très 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 louable dans la mesure où il était dernier à être contacté, mais c'est lui qui a fait le premier pas. Aujourd'hui, il a fait sortir plus de 100 miliciens avec armes. Vraiment, moi je pense que c'est un garçon vraiment très patriote.
Les 110 combattants du FRPI qui se sont présentés hier à Aveba sont attendus ce jeudi au centre des prébrassages de Rwampara, à 8 km à l'ouest de Bounia. Jean-Claude Bissiliabo, Bounia, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la situation humanitaire est toujours préoccupante à Sake, à 27 km de la ville de Goma. Selon M. Tamtam, notable de cette localité, la majorité des habitants ne peut accéder à leur champ situé à Kimoka et dans la partie de Kingi, sous contrôle de Laurent Kunda. Pour sa part, le Bureau des coordinations des affaires humanitaires des Nations Unies dénonce une surmilitarisation de la ville de Sake, ce qui empêche la distribution des vivres et non-vivres sur place. Patrick Lavandome, responsable du bureau Ocha à Goma, au micro de Gisèle Cage.
Au niveau de Sake, on a déjà fait la demande plus de 3 fois auprès du comité restreint de sécurité du gouvernorat et auprès des militaires pour que la ville de Sake soit démilitarisée, c'est-à-dire que l'ensemble des forces des FARDC soient stationnées en dehors de la ville et non pas dans la ville. Tant que ces militaires sont stationnés dans la ville, nous avons des rapports quotidiens de vols, de pillages, de tracasseries sur les civils, et donc il est clair que les humanitaires ne peuvent pas intervenir dans des conditions pareilles.
Aucun responsable militaire à Goma n'a souhaité réagir à cette déclaration. Pas d'ouverture des assemblées provinciales le lundi 18 décembre prochain. Réponse du ministre de l'Intérieur aux inquiétudes du gouverneur de la province du Katanga. Selon le ministre de l'Intérieur, l'installation de ces assemblées interviendra le 3 janvier de l'année prochaine. En attendant, le ministère de l'Intérieur s'active dans le processus de cooptation des chefs coutumiers devant faire partie des assemblées provinciales. Le général Denis Kaloumé dit avoir également donné des instructions au gouverneur de province afin d'apprécier des infrastructures pouvant accueillir les députés provinciaux. Le ministre de l'Intérieur, Denis Kaloumé, au micro de Jacques-Yves Molima.
Du 20 au 25, il y a les mécanismes de cooptation des chefs coutumiers. Et ça se fait au niveau de leur territoire. Justement, c'est pour cela que nous avons demandé que sur place, d'une manière très consensuelle, ils commencent au niveau du territoire. Ça va se faire sous les auspices de la CEI, et des représentants des ministères de l'Intérieur qui a des listes des chefs coutumiers qui sont agréés officiellement, qui nous ont été transmis pour éviter les contestations éventuellement pouvoir trancher. Alors, il y a tout d'abord l'infrastructure qu'il faut mettre en place avec le minimum qu'il faut. Nous avons instruit les gouverneurs de province pour que les anciennes installations des assemblées de l'époque soient libérées, les équiper sommairement pour leur permettre de travailler, de commencer à travailler dès que le moment sera venu. Ce n'est pas tellement les moyens qui débloquent l'action, c'est plutôt la volonté.
Restons toujours dans le même dossier. Dans les assemblées provinciales vont siéger des chefs coutumiers à travers tout le pays. Ces chefs coutumiers représentent leur territoire. Ils ne sont pas élus à l'instar des autres députés provinciaux. Ils sont plutôt cooptés. Explication avec René Capita.
La désignation des chefs coutumiers s'est faite à deux niveaux. D'abord, au niveau de chaque territoire, un regroupement des chefs coutumiers désigne par concertation ou par vote ses délégués. Ces derniers vont constituer des assemblées électives au niveau des chefs-lieux des provinces. Ce sont ces assemblées électives qui vont à leur tour désigner toujours par concertation ou par vote les candidats chefs coutumiers qui seront cooptés au sein des assemblées provinciales. Selon la CEI, les opérations de cooptation des chefs coutumiers doivent se dérouler du 20 au 25 décembre prochain. Les assemblées provinciales ainsi constituées devront se réunir à partir du 3 janvier prochain. Ces assemblées auront parmi les premières attributions d'élire les sénateurs, mais aussi les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces.
Une délégation conjointe MONUC Agence des Nations Unies effectue ce jeudi une visite au centre de pilote de Kanyama KCC au Katanga. Objectif, se rendre compte des conditions de vie des 264 bâtisseurs anciens Chege arrêtés à Kinshasa au début du mois de novembre dernier. Le centre de KCC est situé à près de 800 km au nord-ouest de Lubumbashi. Notre envoyé spécial à KCC, Denise Maéo.
Arrivée à KCC à 9h45 heure locale, la délégation s'est d'abord entretenue avec les responsables du centre pilote et l'administrateur du territoire de Kanyama. Pour le commandant à l'intérim du centre, les 264 bâtisseurs sont d'abord soumis à un encadrement civique et patriotique en vue de les rendre utiles à la société. En plus, le centre veut faire de ces anciens enfants de la rue des agents de développement en leur apprenant différents métiers. Pour la plupart des bâtisseurs, l'encadrement auquel ils sont soumis est bénéfique. Ils espèrent à leur tour devenir utiles et fonder une famille. D'autres déplorent le fait que la formation professionnelle tarde à venir. Notons que parmi les bâtisseurs, 7 affirment n'avoir pas été enfants de la rue à Kinshasa. Les responsables du centre disent pour leur part envoyer la liste à Kinshasa et dès que les faits seront vérifiés, ils pourront retourner sur Kinshasa. Notons que la formation doit durer une année. De KCC au Katanga, Denise Maéo, Radio Okapi.
Autre chose, mais toujours dans le Katanga, plus d'une centaine de maisons détruites de suite d'une pluie torrentielle tombée cette nuit sur la cité de Bukama à environ 300 km au nord de Kolwezi. Selon l'administrateur du territoire de Bukama, plusieurs familles sont sans abri. Information confirmée par des ONG locales de droits de l'homme. On a enregistré même quelques blessés légers, mais jusqu'à présent, aucun secours n'est organisé. Témoignage du pasteur Yumba Musoya, président de l'ONG Action Mieux-être, basé à Bukama. Il est joint au téléphone par Nelly Kabina.
Le dégât est tellement énorme parce que les maisons sont tombées et que les ustensiles de cuisine emportés par l'eau. Alors nous sommes tellement débarrassés avec ce problème. La pluie s'annonce encore maintenant. On va compiler toutes les maisons dans tous les quartiers. Il y a des familles, des maisons qui sont tellement écroulées. Ça peut être plus de 150 ou 200. Non, il n'y avait pas eu de mort, mais les enfants sont en dehors, et les mamans aussi, et il n'y a que des torsions et des blessures. Et cette population, on est en train de voir avec les administrateurs du territoire ici sur place comment le mettre sous abri.
Cap vers l'ouest, dans le Bas-Congo, la route Kwilungongo-Kimpangu, coupée depuis plus de 3 jours. D'après les habitants de la cité de Kimpangu, les pluies quotidiennes et le délabrement du pont Fulesi en sont les causes principales. Conséquence, rareté des denrées alimentaires et des produits pétroliers à Kimpangu. Au lieu de 4 heures de route, les motos font 4 jours sur cette route qui s'étend sur plus de 80 kilomètres. Diogène Nyampala, reportage.
Selon le docteur Denis Lemba, médecin épidémiologiste du Bas-Congo, cette route s'est coupée au niveau des villages Kenge, Ngongo et Ngombe Sud. C'est la suite aux pluies successives. La détérioration du pont Fulesi qui relie Kwilungongo et la cité de Kimpangu est aussi l'une des causes de l'inaccessibilité des véhicules dans cette cité. Arrivé hier mercredi à Kwilungongo, Jules Vuemba, cadre de santé de Kwilungongo, affirme avoir fait 4 jours de route. Route qui s'étend sur une distance de 94 km. Aucun véhicule n'accède à cette cité. Cette situation, ajoute-t-il, a provoqué une rareté de biens de première nécessité tels que le sucre, la tomate, le savon. Les produits pétroliers tels que l'essence et le pétrole sont également introuvables. Selon la même source, une équipe médicale serait bloquée à 44 km de cette cité. Signalons que selon les habitants de Kimpangu contactés, le matériel de réhabilitation du pont Fulesi serait déjà arrivé à Kwilungongo. Cependant, déclare-t-il, les débuts des travaux se fait toujours attendre. Matadi, Giroje Yampala, Radio Kapi.
Direction le Kasaï occidental où une école a été pillée hier dans l'après-midi dans la ville de Kananga. Les finalistes malheureux de l'examen d'État édition 2006 ont saccagé le collège Chenouda 3. Le fait n'est pas nouveau dans cette ville. Les élèves qui échouent à cet examen de fin d'études veulent régler les comptes avec leurs institutions. Le point avec André Kambala.
D'après les témoignages, c'était hier dans l'après-midi que près d'une trentaine de finalistes malheureux de la section commerciale se sont amenés à l'école avec bâtons et pierres à main, sémant ainsi la panique. Ils ont cassé la fenêtre et se sont introduits au bureau où ils ont emporté une somme importante d'argent, tous les dossiers et des chaises, de machines à coudre et des horloges. Toujours hier, la scène similaire a été évitée à l'Institut du Tourounouka grâce à la police. Malgré leur réussite, les anciens finalistes de cette école ont tenté de sortir tous les élèves de salle de classe. Le lundi passé, en dépit de leur réussite au complexe scolaire d'Abena, les anciens ont tabassé les enseignants. Pour un enseignant du secondaire qui a requis l'anonymat, cette attitude de finaliste malheureux est liée à la garantie fictive leur faite par les responsables des écoles à engager des dépenses au cours de l'année pour leur faciliter la réussite. Par contre, ceux qui réussissent agissent de la sorte pour faire prévaloir leur nouveau statut. Ce comportement est condamné par l'Association nationale de parents et élèves qui invite les finalistes à se considérer dirigeant du Congo de demain. Kananga, André Kambala, Radio Kapi.
Aussi à Kisangani, près d'une centaine d'élèves finalistes de la section commerciale et administrative de l'Institut de la Tchopo n'ont pas étudié hier mercredi. Ils ont exigé le départ de leur préfet qu'ils trouvent incapable de produire des diplômes d'État. Déjà mardi dernier, leurs aînés malheureux à l'examen d'État 2005-2006 ont semé des désordres au sein de l'école après avoir tous échoué. À Bukavu, au sud Kivu, l'épidémie de choléra déclarée il y a 10 jours est en train de se propager à travers la province. C'est ce qu'a confirmé ce matin l'inspection provinciale de la santé. Depuis la semaine dernière, plusieurs nouveaux foyers de choléra ont été signalés dans plusieurs zones de santé de la province. On écoute le docteur Rick Chamavou, épidémiologiste à l'inspection provinciale de la santé au micro d'Astrid Mujinga.
Nous avons enregistré des cas de choléra dans d'autres zones de santé en dehors de celles de la ville de Bukavu. La zone de santé de Nyangezi, 62 cas avec un décès. La zone de santé de Kabare, 49 sans décès. La zone de santé de Nyantende, 37 cas avec un décès. Et Mitimuresa, 30 cas sans décès. Katana, 6 cas sans décès. Kale, 5 cas sans décès. La zone de santé de Uvira, 23 cas sans décès. Ruzizi, 40 cas sans décès. La zone de santé de Fizi, 9 cas sans décès. Dans le district du centre, il y a Walungu qui a rapporté 8 cas avec un décès. Voilà un peu la distribution de cas en dehors de notre ville de Bukavu.
Voilà, c'est par cette nouvelle que nous bouclons notre journal. Vous pouvez retrouver ces informations sur notre site internet www.radiocapi.net.